Europe Soir,
le 18-20.
Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invitée ce soir à 18h20, elle veut renforcer le télétravail pour les fonctionnaires. Mais ça n'est pas si simple, les syndicats sont contre. On en parlera donc avec Amélie Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. 18h30, les polémiques du jour. Un vaccin pour tous d'ici l'été, nous dit Emmanuel Macron. Là aussi, est-ce vraiment réaliste? On en débattra. 19h15, la carte blanche de l'économiste Nicolas Bouzou qui a une bonne idée pour relancer les restaurants. Et puis 19h20, le grand débat du Club des Idées. Ce soir, attachez vos ceintures, on part dans les étoiles. Cette fois, ça y est, le tourisme spatial prend son envol, c'est le cas de le dire. Alors êtes-vous prêts pour un petit tour en orbite? On en parlera avec nos invités, notamment le spationaute Jean-François Clairvoy. Le journal d'abord, avec Christophe Lamar. Bonsoir.
Bonsoir Julien.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Le confinement n'est pas une fatalité et ce sont nos efforts collectifs qui nous permettront de l'éviter.
Message d'espoir ou méthode Coué, le porte-parole du gouvernement compte plus que jamais sur les Français pour éviter un troisième confinement.
Et l'avenir proche dira s'il a raison, mais les médecins sont inquiets. Le variant anglais serait en train de muter à son tour. Il provoquerait d'autres symptômes.
La réponse de Colin Berry à son père Richard Berry qu'elle accuse d'inceste.
Le télétravail n'est pas une option, c'est une obligation quand il est possible de le faire. Le gouvernement met en place des brigades. On verra ça pour contrôler les entreprises récalcitrantes.
Yves Rocher prise dans la tempête Navalny, les appels au boycott du fabricant français de cosmétiques se multiplient. Sa filiale russe est à l'origine de la plainte et donc de l'emprisonnement d'Alexei Navalny.
Du football également au menu ce soir. Les Marseillais jouent à Lens, mais sans leur entraîneur, suspendu pour avoir demandé à partir. Ambiance morose donc dans le vestiaire, nous dira Jean-François Pérez.
Et puis la bourse de Paris, quasi stable. Elle ne perd que 0,06% à 5 563 points.
Les inondations et les crues, attention, hein. Un département du sud-ouest passe en vigilance rouge. Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Julien, oui, il s'agit du Lot-et-Garonne car nous avons une crue majeure de la Garonne dans le secteur de Marmande. 19 autres départements restent en vigilance orange crue. Demain, les pluies se calment mais pas assez pour amorcer les décrues. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous n'étions pas loin du confinement serré la semaine dernière. Depuis, on s'en est un peu éloigné, semble-t-il. La courbe des contaminations reste stable. 24 500 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. 3 200 malades en réanimation. Pas d'explosion, mais ce n'est pas le moment de se relâcher, dit le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Après avoir observé pendant deux semaines les effets du couvre-feu, nous constatons toujours une stabilité du nombre de cas positifs. Le président de la République nous l'a rappelé, nous l'a répété, la situation reste évidemment fragile. Le nombre de patients hospitalisés et admis en réanimation est important. Nos soignants sont mis à rude épreuve et l'hôpital, depuis un an, a peu connu le creux des vagues. Les variants continuent à se développer dans notre pays et évidemment appellent toute notre attention et notre mobilisation. Ce que nous indiquent ces chiffres et cette situation, ce n'est donc ni une accalmie ni une explosion, c'est qu'il existe un chemin pour tenir ensemble. Le confinement n'est pas une fatalité et ce sont nos efforts collectifs qui nous permettront de l'éviter.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement qui faisait le point à l'issue du Conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée. La crise sanitaire a aussi son lot de mauvaises surprises et le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait parlé de deuxième vague à propos des variants et les dernières études lui donnent apparemment raison.
En attendant les résultats de l'enquête Flash qui nous dira exactement où en est le variant anglais, nous avons déjà quelques chiffres. Il représenterait 15 à 20% des contaminations en région parisienne. C'était 6% en janvier. Ce que l'on apprend aussi, Victor Delande, c'est que certains symptômes serait différent.
Oui, dans une étude publiée dans le British Medical Journal, 6000 personnes atteintes par ces deux virus ont détaillé leurs symptômes et selon les résultats de cette enquête, il y a bien des différences de symptômes entre la souche initiale et le variant anglais, comme l'explique Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement des hôpitaux de Paris.
On retrouve avec le variant anglais un peu moins de ces signes caractéristiques, hein, la perte du goût et de l'odorat. Il y en a, mais c'est moins fréquent. Et par contre, ce qui semble être un peu plus fréquent, c'est la toux, peut-être des éternuements aussi, des maux de gorge. Ça peut expliquer la contagiosité plus forte. C'est une hypothèse.
Et pour cause, quand vous toussez et quand vous éternuez, même avec un masque, le virus passe un peu sur les côtés. Des données qui restent toutefois à consolider. D'autres études seront d'ailleurs bientôt menées en France pour mieux comparer ces deux virus. Et puis, les Anglais nous apportent aussi d'autres informations sur les mutations de leurs propres variants. Selon l'agence sanitaire britannique, ce variant commencerait à acquérir des mutations présentes sur les variants sud-africains et brésiliens. Des mutations d'autant plus inquiétantes qu'elles pourraient échapper en partie à certains vaccins. Ces changements représentent un enjeu tellement important à tel point que Le laboratoire pharmaceutique britannique GSK et son concurrent allemand CureVac ont annoncé ce matin une collaboration pour développer un vaccin ARN messager justement contre les nouveaux variants du coronavirus. Il serait disponible dès l'année prochaine.
Victor Dolland, à l'étranger, l'un des experts de l'OMS présent à Wuhan, reste prudent. L'enquête sur les origines de la pandémie prendra du temps, dit-il. Du temps, cette équipe de chercheurs n'en a pas eu beaucoup aujourd'hui. Elle n'a eu que 4 heures pour visiter l'Institut de virologie de, cette ville du centre de la Chine. C'est l'un de ces laboratoires que l'ex-président Donald Trump avait montré du doigt, l'accusant d'avoir laissé fuiter le virus.
Alors, il y a les vaccins, mais aussi le télétravail. Le gouvernement tape donc du poing sur la table.
Il y a du relâchement à tous les niveaux. Les entreprises ne font pas le maximum pour encourager le télétravail, mais dans le même temps, les salariés ont de plus en plus de mal à rester chez eux pour travailler. Élise Dangean, le gouvernement a donc décidé de renforcer les contrôles.
Absolument, il va mettre les bouchées doubles. Toutes les entreprises françaises de plus de 1000 salariés vont ainsi être contactées par les inspecteurs du travail. Ils l'avaient déjà fait au début du deuxième confinement. L'idée, c'est de faire un point de situation. Mais on va aller plus loin, prévient la Direction générale du travail. Les contrôles vont être élargis aux plus petites entreprises. Ils seront davantage ciblés selon les secteurs d'activité. Pour ceux qui ne rentreront pas dans les clous, ce sera la mise en demeure, une procédure assez rare. Pour l'heure, il n'y en a qu'une trentaine, mais qui est efficace. Dans la plupart des cas, ça suffit à remettre l'entreprise dans le droit chemin. Et les contrôles ne vont pas concerner que le secteur privé. La fonction publique est aussi dans le viseur du gouvernement. Et pour cause, seuls 42% des agents de l'État travaillent à distance.
Élise Dangean, et justement ce renforcement des contrôles dans la fonction publique, on en parle ce soir avec Amélie de Montchalin, la ministre de la fonction publique, est invitée juste après ce journal avec vous, Julien.
Oui, elle sera avec nous dans quelques instants. 18h06, la suite du journal en attendant avec vous, Christophe Lamarre.
Hier soir, Richard Berry a donc pris les devants pour se défendre d'une plainte déposée par sa fille aînée à son encontre. Elle l'accuse d'agression sexuelle.
Oui, depuis hier, père et fille se déchirent, notamment sur les réseaux sociaux, et ce soir, Colline Berry maintient ses accusations, Chloé Triomphe.
Oui, en réponse au texte publié hier par Richard Berry sur Instagram, Colline Berry, sa fille, prise de court par les dénégations de son père avant même la révélation de sa plainte, lui répond cet après-midi un texte intime dans lequel elle explique sa décision de livrer son histoire à la justice. Un acte grave, réfléchi et pondéré, commence-t-elle, avant de se justifier face aux accusations de récits fabriqués et remodelés au fil des ans dénoncés par son père. Celle qui porte plainte aujourd'hui, écrit encore Colline Berry, âgée de 45 ans, c'est cet enfant qui était embrassé par son père sur la bouche avec la langue, celle avec qui son père n'a jamais eu la moindre pudeur, celle qui a dû participer à ces jeux sexuels dans un contexte de violence conjugale notoire. Colline Berry accuse à son tour son père de vouloir la détruire en tentant de décrédibiliser sa parole et l'accuse d'intimidation, parole contre parole sur les réseaux sociaux, donc sur la place publique, tandis que l'enquête existe désormais sur le plan judiciaire, ouverte pour viol et agression sexuelle par le parquet de Paris depuis le 25 janvier. Les enquêteurs vont devoir entendre la plaignante, tenter de vérifier la véracité des accusations portées et examiner le délai de prescription.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1, la Cour de justice de la République, rendra sa décision le 4 mars dans le procès d'Édouard Balladur et de François Léotard. Une peine d'un an de prison avec sursis a été réclamée contre l'ancien Premier ministre, soupçonné d'avoir fait financer illégalement sa campagne présidentielle en 1995. 2 ans avec sursis ont été requis à l'encontre de celui qui était alors son ministre de la Défense.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h09, la suite du journal. L'affaire est prise très au sérieux par Yves Rocher, le fabricant français de cosmétiques, est victime d'un appel au boycott en Russie.
Oui, on rappelle qu'Alexei Navalny purge depuis hier soir une peine de prison de 3 ans et demi. Et si Navalny en est là aujourd'hui, Jean-Sébastien Soldagny, c'est parce qu'Yves Rocher l'a fait condamner en Russie pour escroquerie.
Il faut remonter à l'époque où Alexei Navalny et son frère faisaient des affaires à peu près librement. Ils étaient à la tête d'une entreprise de transport et de logistique. 4 ans de collaboration sans accroc avec Yves Rocher jusqu'à ce qu'Alexei Navalny entame ses démarches contre la corruption en Russie. Les autorités, évidemment, le surveillent de près. Et une plainte est déposée par la société de cosmétiques. Plainte pour escroquerie sur facturation de 370 000 euros. William Bourdon est l'avocat français de l'opposant. Il considère qu'il s'agit d'une dénonciation calomnieuse et il trouve la dénonciation bien opportune.
Bruno Leproux, alors directeur d'Yves Rocher-Rostock, gratouille une lettre de dénonciation extrêmement succincte après avoir reçu la visite du Comité national d'enquête criminelle, dont il ne peut pas ignorer que c'est forcément un acte de complaisance pour nourrir un coup monté judiciaire. C'est pour criminaliser Navalny, qui a déjà été criminalisé artificiellement à plusieurs reprises, que, en contrepartie de cette dénonciation, on comprend qu'il y a eu une résolution d'un certain nombre de problèmes douaniers, et donc c'est un acte de complaisance.
Après la condamnation de l'opposant, celle qui lui vaut aujourd'hui d'être emprisonné, Yves Rocher a reconnu que la société n'avait subi aucun préjudice. Mais aujourd'hui, à Lagacilly, dans le Morbihan, siège historique de l'entreprise, aucun commentaire n'est fait. Seul un communiqué précise que la société ne participe pas au débat politique et ne commente pas la situation en Russie.
Merci Jean-Sébastien Soldaini. Alors ce soir, l'Union européenne n'exclut pas de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie après la mise sous les verrous donc d'Alexeï Navalny. Le football, une soirée complète de Ligue 1 ce soir, pas mal de matchs, hein, 10 au total au programme de cette 23e journée, des Marseillais qui, c'est vrai, n'ont pas le moral.
Eh ben, le déplacement dans le Nord a dû paraître bien long pour les joueurs de l'OM. Ils affrontent Lens ce soir à 21h, mais depuis 24h, ils n'ont provisoirement plus d'entraîneur. Les dirigeants ont mis à pied André Villas-Boas, qui a exprimé publiquement son envie de partir hier. Jean-François Pérez, bah, c'est une équipe et un club au bord du gouffre et qui va essayer de sauver les apparences.
Oui, c'est ça, hein, de la pluie, du vent en rafale, c'est la tempête hein, ce soir dans le Nord. Et les Marseillais, bah, vous l'aurez deviné, ne seront pas dépaysés. Eux qui traversent depuis 4 jours cette crise presque incroyable. Ils ne sont d'ailleurs arrivés qu'à la mi-journée à Lens, à l'autre bout du pays. Signe que tout se gère quasiment en temps réel. C'est une équipe orpheline, vous l'avez dit, de son entraîneur, le démissionnaire et en même temps mis à pied André Villas-Boas. Et c'est un trio d'intérimaires dirigé par le patron du centre de formation, mais oui, qui va tâcher ce soir de sauver les meubles. 4 jours à peine après les violents incidents de la commanderie, les joueurs, il faut le dire, sont tous abasourdis par la tournure fulgurante des événements, a fortiori ceux qui viennent d'arriver, comme le Polonais Milik, et qui doivent se demander où ils ont atterri. Alors que peuvent-ils faire ce soir face à une fringante équipe lensoise qui est devant l'OM au classement? A priori, pas grand-chose, d'autant que de nombreux joueurs sont blessés ou suspendus. Et quand vous savez que dimanche, c'est le Paris Saint-Germain qui vient à Marseille, vous comprendrez les maux de tête. Au sein du club, la crise a sans doute encore de beaux jours devant elle.
Effectivement, c'est sans doute pas terminé. Jean-François Pérez en direct de Lens, Lens-Marseille, coup d'envoi à 21h.
Évidemment, on suivra ça, bien sûr. Merci Jean-Christophe. Christophe Lamar.
Jean, si vous voulez.
Jean-François Pérez, Christophe Lamar, c'est pas tout à fait pareil. On vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres.
Tout à l'heure.
À 18h30. La météo avec Anissa qui nous a retrouvés. Le Lot et la Garonne sont en vigilance rouge ce soir car la Garonne continue de monter. Le niveau de l'eau continue de monter,
oui.
Anissa.
La crue de la Garonne est très importante, un majeur même du côté de Marmande. Grande prudence donc, les décrues seront très lentes dans toutes les régions touchées par ces pluies importantes. Nous avons également 19 départements en vigilance orange. Des Deux-Sèvres jusqu'au Gers, ça c'est pour le quart sud-ouest. La Saône-et-Loire est concernée. Et puis dans le nord, du Pas-de-Calais jusqu'au Vosges. Là aussi, nous avons 7 départements concernés par cette vigilance orange. Alors demain, bonne nouvelle, les pluies vont se calmer. Nous aurons des averses, hein, le temps ne redevient pas sec. Nous aurons des averses dans le nord-ouest, dans les Landes, l'Auvergne, les Alpes. Partout ailleurs, le ciel est couvert. La journée va commencer prudence avec de nombreux brouillards dans le nord, l'est, la vallée du Rhône. Parfois, la visibilité sera même très réduite. Et puis, au bord de la Méditerranée, c'est le retour des entrées maritimes. Vous connaissez un ciel très couvert le matin. Et ces entrées maritimes, elles auront du mal à se dégager dans la journée. Alors, les températures, elles vont baisser légèrement. Hein. La baisse commence avec le retour des gelées matinales. Moins 1 degré au Puy-en-Velay, 3 pour Aurillac, 5 à Montluçon, 6 degrés à Paris, 8 à Toulouse. Et puis au meilleur de la journée, c'est stationnaire avec 10 à 20 degrés comme aujourd'hui. Hein. 10 degrés à Lille, 13 à Paris et 19 pour Ajaccio. Encore un peu de patience avec le vent qui souffle fort. On a eu 110 km/h dans le Val d'Oise ce matin.
110 km/h.
82 km/h dans le centre de Paris. Ça va se calmer dans la soirée. Demain, le vent va disparaître.
Voilà, info principale donc ce soir. Le Lot et Garonne est en vigilance rouge. Merci Anissa, on vous retrouve pour un nouveau point. Tout à l'heure à 18h30.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h17, la ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Bonsoir Méline Montchalin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Vous étiez, je crois, ce matin en Conseil de Défense autour du Président de la République. Alors pour l'instant, aucune nouvelle mesure n'a été annoncée, n'a été prise. Le confinement n'est pas une fatalité, a dit ce matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Donc pour l'instant, vous le confirmez, les Français peuvent partir en vacances, entre guillemets, l'esprit tranquille vendredi.
Alors, demain, le Premier ministre tiendra sa conférence de presse et précisera tout ce qui concerne notre vie quotidienne. Moi, je suis ici ce soir parce qu'une des mesures que nous devons renforcer, et c'est un combat du Président de la République et du Premier ministre, c'est le télétravail.
Oui.
Parce que c'est une mesure qui fonctionne. Aujourd'hui, on le voit, ce qui nous fera gagner contre l'épidémie à très court terme dans les tout prochains jours, ce sont les gestes barrières, et c'est tout ce qui permet de limiter le brassage. Et ce qui limite le brassage, c'est de ne pas se rendre dans des endroits où on peut croiser d'autres personnes. C'est pour ça que le télétravail est utile.
Bien.
Il est utile pas parce que c'est une règle, il est utile parce que il fonctionne et il permet de combattre efficacement l'épidémie.
Alors, on reviendra tout à l'heure au Conseil de défense, mais vous parlez, c'est vrai, du télétravail. Ce sont des annonces importantes que vous allez nous détailler dans quelques secondes. C'est vrai qu'il y a une forme de relâchement aujourd'hui de la part des entreprises du privé. Seul un salarié sur deux est aujourd'hui en télétravail complet. On le voit d'ailleurs dans nos villes, il y a des embouteillages partout. On voit que les gens circulent, vont au travail, reviennent du travail. Et puis, c'est le cas aussi dans la fonction publique. Seul un fonctionnaire sur trois est aujourd'hui en télétravail.
42% des agents de l'État ont télétravaillé la semaine dernière.
Donc, totalement.
On travaillait au moins un jour. On télétravaillait.
Oui.
Notre objectif
parce que
aujourd'hui.
Ce que j'ai compris des annonces de Jean Castex vendredi, c'est de dire le télétravail, il faut le faire tout le temps à 100%.
Notre objectif, c'est d'abord qu'il y ait plus d'agents qui télétravaillent. Et ensuite, c'est que chacun télétravaille plus de jours.
Oui.
Parce qu'on voit bien qu'un jour de plus de télétravail, c'est un pas de plus contre l'épidémie. Chaque jour où nous télétravaillons, nous aidons à vaincre l'épidémie.
Mais vous étiez venu me voir à ce même micro il y a quelques semaines, je crois que c'était en novembre dernier. Vous m'aviez dit à peu près la même chose. Est-ce qu'on a progressé depuis, Amélie de Montchalin ?
On a progressé d'abord sur les équipements. Nous avons passé une commande interministérielle de 50 000 ordinateurs qui se déploient chaque semaine.
Ils sont arrivés.
J'ai été envoyé tout à l'heure à la préfecture d'Île-de-France, qui est l'une des plus grandes administrations en Île-de-France. Et chaque semaine, il y a les livraisons. Nous avons donc équipé, nous continuons à former. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons renforcer les règles.
Oui.
Parce que nous devons rappeler ce que nous avons dit depuis le départ, c'est que tout ce qui peut être télétravaillé doit l'être. Mais surtout, nous allons proscrire les réunions.
Attendez,
nous voyons qu'aujourd'hui...
Aujourd'hui, vous me dites, les agents chez eux, à la maison, ils sont équipés des outils, ordinateurs et des logiciels nécessaires pour télétravailler.
Tout à fait. Aujourd'hui, on a l'équipement qui suit. On a des engagements très forts sur la messagerie pour que chacun puisse avoir d'ici au 31 mars toute sa messagerie à distance. Et on a l'engagement qu'au 1er juillet, 100% des agents qui ont des missions télétravaillables soient équipés d'un ordinateur portable.
Le 1er juillet, Amélie de Montchalin, pardon, mais j'espère qu'on sera sorti
partait,
tout ça.
Oui, on partait de très très loin, donc c'est
ça.
Un plan que nous déployons.
Moi, j'avais cru comprendre que l'urgence, c'était tout de suite le télétravail. Parce qu'on ne peut pas demander en même temps aux entreprises, faites du télétravail à 100%.
C'est pour ça que ce que je viens vous dire...
Et que la fonction publique ne soit pas exemplaire.
D'abord, la fonction publique a un devoir d'exemplarité. Ensuite, la fonction publique doit, évidemment, c'est ce que nous faisons et ce que je vous annonce ce soir, nous renforçons nos règles, en particulier sur les réunions.
Oui.
Toutes les réunions sont proscrites et s'il y a vraiment une nécessité impérieuse de tenir une réunion, elle doit se tenir avec moins de 6 personnes en présentiel pour que plus personne ne soit obligé de venir sur son lieu de travail parce que dans sa journée, pendant une heure ou deux heures, il doit faire une réunion.
Mais
c'est une règle très claire.
La fonction publique, c'est une grosse machine. Est-ce que, vu l'urgence de la situation, pour éviter ce reconfinement, on a tous envie d'éviter d'être confinés. Le président de la République l'a dit aussi. Est-ce que d'ici 15 jours, vous pouvez nous fixer un objectif d'un certain nombre d'agents de la fonction publique qui passeraient en quasiment 100% de télétravail ?
Mon objectif, c'est que dans les prochains jours, et j'ai réuni tous les secrétaires généraux des ministères il y a deux heures.
Oui.
Dans chaque ministère, les règles sont claires. Elles doivent être maintenant pleinement suivies, appliquées. Nous proscrivons les réunions. Et ça, c'est, je pense, très clair et très efficace pour éviter que les gens soient obligés de venir sur le travail alors qu'ils pourraient travailler de chez eux, être en visioconférence ou en audioconférence. Et par ailleurs, sur le suivi, chaque mardi, avec le président et le premier ministre, chaque mardi, je ferai un point des progrès qui sont faits, du nombre d'agents qui télétravaillent, du nombre de jours qui sont télétravaillés. Et nous devons, nous, dans la fonction publique, comme dans l'ensemble du pays, faire cet effort collectif et individuel.
Et comment ça va se passer dans les préfectures, dans les petites mairies, si on doit aller faire un passeport, une carte d'identité,
un permis
de conduire ?
Aujourd'hui, on a la continuité du service public qui est assurée.
Oui.
Les guichets sont ouverts, les démarches sont là. Parfois, on prend des rendez-vous. Parfois, c'est un peu différent de ce qu'on faisait avant. Mais donc, la continuité est assurée. Évidemment, je ne vous parle pas des personnes qui sont derrière les guichets, mais je vous parle de personnes qui peuvent travailler peut-être la moitié de leur temps, 4 jours, 5 jours, à distance. Et par ailleurs, nous sommes très attentifs.
Il y aura des contrôles ?
Évidemment, nous faisons des contrôles. Vous savez, tous les 15 jours, je réunis des organisations syndicales qui me font remonter toutes les situations individuelles et particulières où la réalité ne correspond pas aux instructions. Et donc, au fond, ce que j'ai à vous annoncer ce soir, c'est d'abord, on renforce les règles, on a un suivi beaucoup plus strict, et par ailleurs, on continue d'équiper à marche très volontariste tous les agents pour qu'ils puissent effectivement télétravailler.
Alors,
ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que nous sommes conscients que c'est un effort réel, parfois difficile, et que donc les agents publics, comme dans le secteur privé, qui demanderont, quand ils télétravaillent 5 jours sur 5, à revenir un jour par semaine sur leur lieu de travail, seront autorisés à le faire, parce que nous devons aussi, dans cette période où chacun fait des efforts,
oui.
être extrêmement vigilant sur les risques de santé mentale,
d'isolement. C'est ce que j'allais vous dire, Amélie de Montchalin. L'équation est compliquée aujourd'hui. L'Association nationale des directeurs de ressources humaines disait à notre antenne ce week-end, le 100% télétravail, c'est dangereux psychologiquement, c'est dangereux pour les entreprises, c'est dangereux pour les salariés, le qualifiant même de dévastateur. Et vous le savez, on mesure aujourd'hui les effets psychologiques du télétravail.
C'est pour ça que tous ceux qui le demandent peuvent revenir un jour par semaine. Et c'est pour ça que notre objectif, c'est de faire progresser ceux qui font deux jours de télétravail, on peut en faire un troisième. Quand on en fait trois, on peut en faire quatre. Et si on en fait cinq et qu'on a besoin de revenir sur notre travail, on doit aussi pouvoir le faire. Mais je le rappelle, pourquoi on fait tout ça ? Parce qu'on doit absolument éviter le confinement. Chacun de nous, quand nous passons une journée chez nous, de plus que ce que nous faisions encore il y a peut-être la semaine dernière ou celle d'avant, eh bien c'est une journée de gagner contre l'épidémie.
Et, alors, je reviens, nous sommes là, dans une
situation qui est effectivement difficile. Mais ces efforts-là, individuels et collectifs, c'est notre meilleure arme.
Oui.
Nous le savons de sources sûres.
Alors,
c'est notre meilleure arme contre l'épidémie.
Au début de notre discussion, sur ce Conseil de défense ce matin, j'entends que vous ne voulez pas me révéler ce que peut ou ce que va annoncer demain le Premier ministre Jean Castex, qui prend la parole à 18h. On imagine qu'il n'annonce pas de nouvelles mesures, sinon le Président n'aurait pas dit ce qu'il a dit hier soir et n'aurait pas fait ce tweet sur les réseaux sociaux dimanche dernier. Mais quand même, quel est l'indicateur que regarde en particulier le président de la République pour décider de la suite ? Est-ce que c'est le nombre de contaminations, le taux de reproduction, les réanimations, la progression du variant ? On a parfois du mal à s'y retrouver dans ce qui est la boussole du gouvernement et du chef de l'État pour prendre ses décisions.
Je ne parlerai pas au nom du Premier ministre, du Président. La boussole collective du gouvernement depuis le premier jour, c'est de sauver des vies.
Oui.
Et c'est d'éviter qu'en toutes circonstances, nous soyons obligés de trier entre des patients dont nous ne pourrions plus assurer les soins dans les hôpitaux. C'est la boussole depuis le départ. Pourquoi cette épidémie est très difficile, individuellement, collectivement, pourquoi elle est difficile pour chacun de nous ?
Donc vous me dites, c'est un peu
c'est
tout ça
qu'on regarde
à la loupe.
C'est parce qu'elle nous pose des questions de vie et de mort.
Oui.
Et donc nous devons, par nos actes individuels, par nos actes collectifs, faire tout ce qui est en notre pouvoir, et c'est pour ça que le télétravail, les gestes barrières, la responsabilité finalement collective et individuelle que nous appelons de nos voeux, c'est cette capacité à tenir ensemble.
Alors,
à prendre chacun nos responsabilités, c'est l'arme la plus puissante, la plus efficace.
Pour sauver les vies, Amélie de Montchalin, le président de la République l'a dit hier soir, la vaccination, il a fixé un objectif. Je sais que ça ne dépend pas directement de votre ministère, mais vous êtes aussi un membre du gouvernement et de l'exécutif. Il souhaite vacciner l'ensemble de la population adulte d'ici août. 53 millions de personnes. Alors j'ai été regarder sur ce site absolument formidable qui s'appelle Vaccin Tracker. Pour vacciner 53 millions de personnes et de Français d'ici août, il faudrait injecter 476 000 doses chaque jour. 476 000 doses chaque jour. Comment est-ce qu'on peut y arriver ?
Écoutez, tout ça, en termes de logistique, ça sera annoncé en temps voulu par le Premier ministre, le ministre de la Santé. Vous savez qu'on travaille énormément aussi en cadre européen sur une question qui est de permettre effectivement que la vaccination se déploie et que nous puissions avoir en termes de doses, en termes de logistique, en termes de mobilisation générale, que ce soit des professionnels de santé, des pharmaciens, bref, de l'ensemble des professionnels de santé, l'action nécessaire pour y arriver.
Oui.
Maintenant, on est clair sur une chose, la vaccination, ce n'est pas ce qui nous fera vaincre là le tournant épidémique dans lequel, ou le plateau épidémique, ou le nombre de cas d'aujourd'hui, de la semaine prochaine et des prochains jours.
Oui.
Et donc, évidemment, il y a un effort sur le long terme.
Mais vous pensez que c'est possible de vacciner autant de personnes en si peu de temps ?
Si vous pouvez regarder, et je vous invite à regarder, quand nous vaccinons contre la grippe, nous vaccinons des millions de Français en quelques jours, en quelques semaines. Donc aujourd'hui, notre principale boussole, c'est bien sûr la logistique, l'organisation, la fourniture des doses, et donc une bataille aussi industrielle, c'était le message du président hier. Et c'est de vaincre aujourd'hui, demain, chaque jour, et j'y reviens, par nos gestes individuels et collectifs, une épidémie. Tant que le nombre de cas ne baissera pas, le risque d'un confinement sera toujours là.
J'ai entendu votre message. J'ai une toute dernière question, Amélie de Montchalin. Dans l'intitulé de votre ministère, il y a la transformation. C'était l'une des grandes promesses d'Emmanuel Macron, libérer le pays, en finir avec, d'une certaine manière, le carcan de l'administration publique et ses lourdeurs. Je voudrais vous citer un exemple. C'est cette biotech nantaise dont on parle beaucoup, Valneva, qui va sortir 80 millions de vaccins à l'automne. On n'a pas été fichu de lui trouver des financements. C'est la Grande-Bretagne qui l'a fait et qui seront donc servis en premier pour les vaccins. Comment ? Je sais que vous n'êtes pas directement responsable, mais tout de même, quel échec.
Écoutez, vendredi, on sera avec le Premier ministre dans les Landes.
Oui.
Et nous tiendrons la cinquième réunion depuis que Emmanuel Macron est président sur la transformation publique. Moi, ma boussole, c'est l'efficacité, la rapidité.
Oui.
Comment on fait des choses simples et que les Français voient, dont ils voient les résultats là où ils sont.
Mais sur cet exemple quand sur même, cet exemple, comme sur beaucoup ils ont demandé d'autres. Des financements publics à la France, ça n'a pas été assez vite, ils sont allés voir les Anglais.
En l'occurrence, il faudra bien sûr pouvoir regarder après coup s'il y a eu des blocages. Moi, ma boussole, c'est comment on recrée des services publics qui soient proches des Français, qui leur répondent rapidement, et surtout que les décisions que nous prenions soient des décisions de terrain. Ce que nous ferons avec le Premier ministre vendredi, ce sont des annonces d'efficacité concrète, pragmatique. La réforme de l'État, ce n'est pas de faire des grands discours, de grands éditos dans les journaux, c'est de s'assurer que dans chaque territoire, dans chaque département, nous sommes efficaces. Vous savez, quand on a publié le baromètre des résultats,
vous avez
il y a
raison,
15 jours,
mais c'était la promesse de Emmanuel
nous
Macron.
Avons, c'est un acte de transformation majeure. Donner à voir à chaque Français, sur le site du gouvernement, ce qui s'est passé dans son département, à la fois ce qui a très bien progressé, grâce à notre action, et les collectivités locales, et les entreprises, et les associations.
Et bien, on suivra ça.
Et aussi, ce qui a moins progressé, pour qu'on soit en capacité, d'ici 2022, de tenir nos promesses, tenir nos engagements, avoir des résultats, et dire à chaque Français que quel que soit le lieu où il habite, quel que soit son département, nous lui devons des résultats.
Et bien, on suivra
ce
ça.
Pilotage
Merci.
De proximité, c'est l'engagement que je prends, et je peux vous dire que c'est une action en soi, qui est une grande transformation.
Merci Amélie Montchalin d'avoir été ce soir notre invitée. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bûcher.
18h30, passé d'une minute, le rappel des titres avec Christophe Lamarre.
La Garonne continue de monter du côté de Marmande dans le Lot-et-Garonne. Le département est placé en vigilance rouge, inondation par Météo France. Le point complet à la fin de ce rappel de titres. L'État condamné à verser 1 euro symbolique pour ne pas lutter suffisamment contre le réchauffement climatique. La justice estime qu'il n'a pas respecté ses engagements en matière de lutte contre les gaz à effet de serre. Le plus gros choc de l'histoire du transport aérien. Le trafic mondial de passagers s'est effondré de 66% l'an dernier, du jamais vu, estime l'Association internationale du transport aérien, qui ne se montre pas très optimiste pour 2021. Et puis, ils vont devoir attendre avant de jouer au tennis. Les 5 à 600 joueurs accrédités pour l'Open d'Australie, qui commence lundi, sont à l'isolement. Ils n'en sortiront qu'après un test négatif. Un cas de Covid a été détecté parmi le personnel de l'un des hôtels où ils sont hébergés.
Merci Christophe, à tout à l'heure à 19h. La météo avec les inondations et les crues qui se poursuivent, Anissa.
Oui, effectivement, l'eau continue de monter dans le sud-ouest où nous avons en tout ce soir 19 départements placés en vigilance orange, 9 départements du nord au nord-est, 10 départements dans le sud-ouest, région très touchée, et le Lot-et-Garonne placé en vigilance rouge parce que c'est une crue très importante, une crue majeure de la Garonne qui touche Marmande et ses alentours. Donc très grande prudence dans ce secteur. Demain, nous aurons une petite accalmie côté pluie, mais ça ne sera pas suffisant pour amorcer les premières décrues. Ça va être très long côté température. Demain, ça baisse un petit peu le matin, mais dans l'après-midi, c'est comme aujourd'hui.
Bien, on en parlera tout à l'heure, évidemment, à 19h. Merci Anissa.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bûcher.
18h32, place au débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Julien.
L'historien Jean Garrigue. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Et Pascal Pogam, directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Ravi de vous retrouver Pascal.
Bonsoir Julien.
Alors on va parler dans quelques secondes des vaccins. Avant cela, je voudrais qu'on s'intéresse brièvement à la situation en Russie. Ce qui se passe là-bas est intéressant et se durcit assez sérieusement avec l'Occident. Les condamnations se multiplient après la condamnation en justice d'Alexei Navalny à 3 ans et demi de prison. Poutine défie l'Occident en quelque sorte. Et la France hausse sérieusement le ton à l'image ce matin, ce même micro de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères.
Il y a une dérive autoritaire manifeste, constatant que la population russe aujourd'hui exprime son mécontentement. Donc c'est au président Poutine de prendre les initiatives nécessaires. Mais en même temps, nous voulons garder un lien de dialogue avec la Russie qui soit ferme, mais qui soit réel, parce que la Russie est notre voisin.
Que peut faire la France, Jean Garrigue ? Est-ce que ça peut modifier, interférer nos relations avec la Russie à l'heure, en plus, où on va négocier avec eux des commandes de vaccins ?
Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire grand-chose, à vrai dire. Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine défie non seulement la France, mais l'Union européenne, depuis la guerre de Crimée, sur la question du nucléaire iranien, sur beaucoup de questions. Poutine suit sa route. On a vu poindre l'hypothèse...
Mais ce qui change quand même, c'est que le Kremlin n'essaye même plus de faire illusion.
Oui. Il y a un durcissement, mais peut-être... Alors ce durcissement... En fait, il peut être analysé de deux manières. Il peut être l'aveu d'une faiblesse intérieure et la nécessité de se radicaliser par rapport à une opposition qui a trouvé en quelque sorte son fer de lance qui serait Navalny. Mais ça peut être aussi une manière de se positionner justement en position de force par rapport au, à l'Europe. Et les moyens de pression existent. On parlait, je crois que c'est le secrétaire d'État aux affaires européennes qui imaginait qu'on pouvait faire pression sur l'affaire du gazoduc.
Oui.
Sauf que Angela Merkel, de son côté, ne semble pas du tout disposée à exercer cette pression. Reste éventuellement la question de la réduction des armements nucléaires, ou plutôt ce qu'on appelle on appelait à l'époque les accords START, c'est-à-dire continuer la désescalade des armements. Je sais que Joe Biden a lancé cette proposition de prolonger de 5 ans cette désescalade de l'armement. Est-ce qu'on peut faire pression dans ce domaine-là? Est-ce qu'on peut faire pression sur le fameux vaccin Sputnik 5 qui pourrait être une bonne opération commerciale pour les Russes?
On se moquait au début, puis on s'aperçoit qu'il est sacrément efficace. Ouais. Catherine, les mêmes questions. Est-ce que tout ça, c'est du blabla diplomatique, ou est-ce que ça peut fondamentalement changer nos relations avec la Russie?
Moi, je crois que Navalny est un gros caillou dans la chaussure de Poutine. Parce que d'abord, c'est la première fois que des enquêtes, et avec tous les moyens actuels, des investigations, des journalistes et tout ça, eh bien, on a révélé qui est le vrai Poutine aux yeux des Russes. C'est-à-dire que jusqu'ici, il avait l'image du sauveur qui ne pense qu'à la Russie, de l'homme qui était très fort, qui se montrait toujours, qui montrait ses muscles, qui faisait du sport et tout ça.
C'est vrai.
Puis on a découvert que d'abord, c'était c'était un homme corrompu, qui avait une vie privée, des maîtresses, enfin tout ce que... et qui vivait à grande guide, alors que le PIB... par habitant des Russes est plus faible que celui des Portugais. Vous voyez, donc je pense que son image est très altérée. Bon, mais est-ce que les Européens vont pouvoir peser sur lui, et en quel domaine? Je vous le demande. Vous savez,
la Russie est un partenaire important quand même.
La Russie est un partenaire important. Alors bon, quand il y avait eu l'Ukraine, les Européens avaient pesé sur la France pour qu'elle renonce à vendre les navires Mistral à la Russie.
Oui.
Eh bien, la France avait cédé et les avait vendus aux Européens. Mais là, il y a une pression des pays baltes, des pays de l'Est, pour que l'Allemagne arrête le Nord Stream, qui est
projet de gazoduc.
Le gazoduc, mais là, il n'en est pas question parce qu'elle en a besoin pour sa politique énergétique ou ça. Qu'est-ce qu'il risque, Poutine? Mais rien.
Et vous avez raison de dire que c'est le caillou dans la chaussure de Poutine, sauf que, Pascal Paugam, pour ceux qui connaissent un peu la Russie, pour l'homme de la rue, pour l'homme de la campagne, il est encore très très populaire, Vladimir Poutine. Vu d'Occident, évidemment, on a l'impression qu'il est détesté de tous les Russes, mais c'est pas ce qui se passe dans le pays.
Ça n'est pas le cas, et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il est, si on compare avec la situation 2014, c'est vrai qu'il donne encore moins le change qu'en 2014, il a l'air assez intouchable. Et il a raison de le penser, parce que si on se réfère à ce précédent des sanctions prises en réponse à l'annexion de la Crimée il y a 6 ans, si on fait le bilan de ces sanctions, quelle a été leur efficacité? Aucune, franchement aucune. Je dirais même qu'elles ont été contre-productives du point de vue européen, puisqu'elles ont contribué sur certains segments d'activité à renforcer la position russe.
Vous diriez que Vladimir Poutine est en train de se radicaliser par rapport à l'Occident, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure, il essaye même plus de faire illusion. Il semble de plus en plus hermétique et indifférent aux critiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs.
Je ne parlerai pas de radicalisation. Il fait ce qu'il a toujours fait. Il est serein, il avance. Tel un paquebot, et
il élimine ses opposants, et il a autour de lui des conseillers qui sont tous des anciens du KGB. Et qui croient qu'ils agissent comme des temps anciens, où il y a en toute impunité. Ben vous voyez, l'avocat de Kolosovski, voilà, le milliardaire. Comme par hasard, comme il avait dévoilé des dossiers, on l'a retrouvé mort dans sa cellule.
Voilà,
enfin,
on assume.
Ah, mais concrètement,
un pays qui enferme ses opposants, qui musèle l'opposition.
Qui les empoisonne.
Ce qui se passe entre Poutine et l'Union européenne me fait un peu penser, toute proportion gardée, à ce qu'était l'attitude de la Société des Nations dans les années 1920-1930 face à la montée en puissance d'Hitler et Mussolini. C'est-à-dire qu'il y a des effets de manche, il y a des moments aussi de rapprochement. Ça pourrait se comparer aussi à la période de la guerre froide, parce que quelque part, c'est une sorte de guerre froide. Mais malgré tout, globalement, Poutine reste populaire en Russie, j'allais dire en Union soviétique. Il reste populaire en Russie et il reste beaucoup plus populaire que Navalny. C'est ça le véritable rapport de force.
Mais est-ce qu'il menace la paix entre les nations? Est-ce que demain, on pourrait arriver à une forme de conflit, pas forcément armé, mais une forme de conflit avec la Russie?
Non, moi, je ne pense pas. Je pense que c'est la guerre froide. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au moment où la tension pourrait dégénérer.
Catherine.
Oui. Et moi, je trouve qu'en ce moment, vous voyez, où alors il vient... la Russie prend sa revanche avec cette affaire des vaccins. Parce que vraiment, jusqu'ici, on disait, vous savez, quand on envoyait des chefs d'État qui allaient se faire soigner en Russie, ils revenaient tous les pieds devant. On disait vraiment, il y a un système de santé soviétique épouvantable. Et puis là, ils sortent un vaccin.
C'est du sérieux, ce vaccin. Vous avez vu, dans la revue The Lancet, les scientifiques disent qu'il est efficace à plus de 91%.
Et oui, parce que les
Alors,
Russes...
ils ont un peu grillé les étapes. Oui. Ils n'ont pas peut-être été transparents sur les modalités.
Peut-être que sur les tests, mais... ils ont été peut-être un peu vite. Mais,
vous voyez, ça marche.
Hier, dans un journal, dans une radio, une télévision suisse, l'ambassadeur de Suisse à Moscou disait que toute l'ambassade s'était fait vacciner par le vaccin Sputnik. Il faisait, vous voyez, une grosse publicité sur ce vaccin. Alors là, comme les Russes voient que c'est l'Europe qui manque de vaccins, ils font une commande, ils veulent obtenir l'homologation. Mais est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Parce qu'il faudrait qu'ils soient très transparents. Eh bien, on n'en est pas là.
Mais vous avez vu qu'un laboratoire allemand a déjà pris contact avec les Russes, ou inversement, je ne sais pas dans quel sens ça se passe.
C'est la grande force de Poutine.
Et la Hongrie, qui a fait ses commandes en direct, Orban est un ami de Poutine, a déjà reçu ses premières doses. Vous avez fait un grand dossier cette semaine dans l'Express qui vient de sortir. Vous nous en parlerez tout à l'heure, Pascal Pogam, qui sort demain. J'ai pu le voir sur Internet. J'ai pu voir la couverture qui est absolument passionnant. C'est du solide quand même, ce vaccin russe.
C'est du solide, c'est surtout avec un petit peu de cynisme, on s'aperçoit que toutes les grandes déclarations sur la fragilité des procédures d'agrément, les procédures d'autorisation de mise sur le marché concernant le vaccin russe et les vaccins chinois, qui eux aussi commencent à être distribués en Europe via la Hongrie ou via la Serbie. On s'aperçoit que le principe de réalité est plus fort que tout et qu'aujourd'hui, on a un besoin criant
de vaccins. Mais ça peut être un outil diplomatique de Poutine, ce vaccin.
C'est de la diplomatie, c'est la diplomatie du vaccin dont on a parlé à propos de Pékin.
Donc
c'est
évidemment le cas pour Moscou. Je vous donne 100 millions de doses, je vous donne 50 millions de doses, mais vous arrêtez de m'embêter avec vos opposants.
On n'est plus de Navalny, ça c'est clairement...
C'est bien pour ça qu'ils l'ont appelé Spoutnik. Je pense que le choix de l'intituler Spoutnik... renvoie à cette suprématie alors momentanée, mais qu'avaient exercé les Russes à l'époque sur la course à l'espace. Et ça veut dire aussi que c'est relancer comme ça le prestige de la recherche russe dans le monde. Et c'est une arme géopolitique, c'est une arme géostratégique, c'est une arme économique. Et justement, dans le conflit là autour de Navalny, je suis sûr que c'est quelque chose qui va peser. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va peser.
Catherine. Oui, et puis c'est aussi se mettre entre leurs mains. Je veux dire, parce qu'après tout, ils disent on est fâchés, on vous donne plus de vaccins. Vous voyez, ils peuvent jouer. Donc, c'est un jeu politique subtil. Parce que moi, je crois qu'en ce moment, Poutine, les Européens, je crois qu'ils s'en moquent un peu. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir où il en est avec l'administration, la nouvelle administration américaine, qui lui est très hostile. Oui. Et là, il a besoin de...
Et puis, il a déplacé sa zone d'influence de l'autre côté de la planète, vers l'Asie. 18h42, on marque une pause. On va parler justement des vaccins et de la promesse d'Emmanuel Macron de vacciner l'ensemble de la population d'ici à l'été. Alors, est-ce possible? On en parle, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du débat des grandes voix du mercredi, toujours Catherine Ney, l'historien Jean Garrigue et Pascal Pogam, directeur adjoint de la rédaction de l'Express. Les vaccins, ou plutôt le manque de vaccins en France, on en parle, qui suscite toujours le débat. Une réunion s'est tenue hier soir autour du président de la République et il s'en est expliqué en annonçant qu'au moins 4 usines françaises produiront bientôt des vaccins, faute de les avoir développés, et ce, dès le mois de mars. Avec un objectif, pour le moins ambitieux, le chef de l'État a dit ceci.
D'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé, en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin. C'est exactement le même rythme, la même solution que nos voisins allemands et que nos autres voisins européens.
Alors moi, je suis un peu monomaniaque, mon équipe se fiche de moi à chaque fois parce que je cite toujours la même référence, le fameux site vaccin tracker sur lequel on apprend pour réussir cet objectif, c'est-à-dire vacciner 53 millions de Français, c'est la population adulte, d'ici cet été, il faudrait injecter chaque jour 465 000 doses. Voilà. Alors, c'est possible quand on voit le taux de vaccination pour la grippe saisonnière, mais ça demande une sacrée logistique et un sacré approvisionnement. Est-ce que c'est tenable, cet objectif, Catherine?
Vous avez vu que le président qui mettait comme héroïne Morissette, parce qu'elle avait osé se faire vacciner. À une époque, il croyait encore que les Français ne voudraient pas se faire vacciner.
La première vaccinée.
Mais maintenant,
de
tout le monde veut être Morissette.
Oui.
Donc, il y a un problème.
Oui.
Et quand il dit, vous avez bien vu, il dit tous les Français volontaires. Parce qu'il imagine qu'ils ne seront pas si volontaires que ça. Mais s'ils sont tous volontaires, ce que je crois, moi, je ne prendrai pas le pari que tout le monde sera vacciné à la fin de l'été.
Justement, en parlant de Paris, le professeur Delfrécy du Conseil scientifique, lui, disait il y a peu, cet été, on aura vacciné. Allez. 40% de la population, pas plus. Il ne disait pas ça il y a 6 mois. Il disait ça il y a une semaine. Pascal Pogam.
nous parlions de posture à propos de Navalny et de Poutine, on est là aussi dans la posture. En réalité, Emmanuel Macron, hier, a surtout habillé des annonces qui étaient déjà faites et connues dans le milieu industriel, c'est-à-dire que les quatre sites de production dont il a parlé sont identifiés de longue date. On sait que Sanofi va travailler pour Pfizer, que Fareva va travailler pour Moderna. Et ces sites-là vont faire essentiellement du flaconnage. On ne parle pas là de production de vaccins. Et c'est clairement pas ça qui peut changer la donne. Vous l'avez résumé vous-même, Julien. L'enjeu, il est avant tout logistique. C'est un enjeu d'organisation. Les succès israéliens, les succès britanniques qu'on peut observer aujourd'hui, ils sont avant tout des succès liés à une logistique imparable, extrêmement efficace, qui mobilise tout le pays. On n'en est pas là aujourd'hui.
Alors, il y a plusieurs sujets là-dedans, parce que moi, je ne voudrais pas qu'on tape gratuitement sur le gouvernement. Ce n'est pas que de sa faute les Français ne peuvent pas être vaccinés. C'est aussi parce que les vaccins, ils n'arrivent pas. Il y a un problème d'approvisionnement. Alors, comment on peut faire face à ça?
Écoutez, moi, je ne suis pas la solution miracle. Ce qu'on peut dire,
c'est... Est-ce qu'il y a une responsabilité? On va y revenir après, parce que je ne sais pas si vous avez lu la grande enquête du Monde aujourd'hui, est-ce qu'il y a une responsabilité européenne aussi cette affaire?
Mais c'est ce que j'allais dire. Je pense que la principale responsabilité incombe à l'Union européenne, à la Commission européenne, parce que manifestement, les contrats, on le voit bien avec AstraZeneca, les contrats ont été mal négociés. Le fait que les Britanniques aient bénéficié beaucoup plus rapidement que nous d'AstraZeneca, le fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec une rupture de stock de AstraZeneca, tout ça semble dénoncer un certain amateurisme, en tout cas des erreurs dans les prévisions qui ont été faites par le... Alors, on peut comprendre qu'il y ait aussi... On ne travaille pas dans quelque chose de totalement sûr. La visibilité par rapport à la production des laboratoires...
Précision, c'est important pour tous nos auditeurs, parce que c'est assez vertigineux. On a commencé à passer les contrats avant que les vaccins soient validés.
C'est ça.
Donc on a misé sur des chevaux, sur des coureurs, si je puis parler ainsi, qui ne sont pas forcément sortis les premiers.
Mais par exemple, les Israéliens ont misé plus tôt et plus lourd, en payant les vaccins plus chers.
Alors, vous vous souvenez qu'il y avait des grands chefs, comme par exemple le professeur Raoul, qui disait qu'il était absolument impossible qu'il y ait des vaccins avant 2 ans. Ça n'existerait pas.
C'est vrai. Alors, dans cette grande enquête du Monde, Pascal Pogam, vous réagissez, parce que vous avez des infos aussi là-dessus. On apprend notamment que l'Europe a privilégié certains groupes au détriment d'autres pour des intérêts nationaux. Sanofi, par exemple, qui a obtenu un important contrat de 300 millions de doses alors qu'il était en retard sur la production et sur le développement de son vaccin. Ouais. D'ailleurs, ça se confirme, puisqu'il n'est toujours pas prêt.
Ça se confirme, là, Sanofi, mauvaise pioche, effectivement, puisque Sanofi a annoncé peu de temps après qu'il aurait au moins 6 mois de retard dans la production de son vaccin. Les réflexes nationaux traditionnels ont pu jouer. Il faut malgré tout pas noircir le tableau. Dans cette affaire, l'Europe a joué collectif. C'est une première.
C'est vrai.
A fait en sorte que les précommandes soient passées pour tout le monde pour éviter que les pays membres de l'Union se fassent la guerre entre eux pour sécuriser leur vaccin.
D'ailleurs, tous ceux qui disent s'il n'y avait pas eu l'Europe, on aurait mieux fait tout seul parce qu'on aurait négocié en direct. Comme nous, la France, on n'a pas développé de vaccin, on aurait sans doute été les derniers servis.
Et on aurait eu moins de pouvoir de négociation, ça c'est une certitude. Ce que je veux préciser, pour recadrer ce que nous pouvons dire sur les ratés de cette campagne de vaccination, il faut rappeler que sur le plan industriel, les différents laboratoires impliqués dans cette course au vaccin sont en train de réaliser une prouesse exceptionnelle. Être capable de produire des vaccins en quelques mois, c'est du jamais vu. Il faut le marteler. On ne parle pas de sites de production qui fabriquent des t-shirts.
Oui.
C'est quand même un process technologique extrêmement
pointu. On a plutôt tendance à parler de ce qui ne va pas, mais il faut aussi parler de la performance que ces laboratoires ont réalisée. Le patron de Moderna, le français Stéphane Mancel, pour revenir sur l'Europe et la négociation des contrats, disait début janvier, l'Europe, c'est vrai, a peut-être trop misé sur le succès des labos européens. Alors lui, il a développé ça avec les Américains, Moderna. Ils ne nous ont pas commandé, par exemple, plus de doses, alors que nous, on était prêts, ce qui n'a pas de sens.
Ben oui, mais ça, c'est des ratés, ça, qui sont indéniables. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, je crois qu'à l'origine, beaucoup ne croyaient pas que ces laboratoires seraient capables, qui étaient, dans le fond, pas très connus pour eux, étaient capables de réaliser ces prouesses. Voilà.
Oui.
Et donc, c'est ce retard. Est-ce qu'il est explicable ? Il est regrettable ? Est-ce que qui a manqué de... Qui a réussi à être plus... j'ai oublié le nom de notre laboratoire qui est en France et qui a trouvé de l'argent en Angleterre.
Ah oui.
Mais là, là vous voyez que
l'entreprise nantaise.
Mais oui. Voilà. Et bien là, je veux dire, alors que l'entreprise
qui va développer 80 millions de doses de vaccins d'ici à l'automne, a priori, si tout se passe bien pour eux, qui ont été demandés des fonds publics à la France, qui a trop tardé, et du coup, ils sont allés demander du côté de l'Angleterre. Conséquence, c'est l'Angleterre qui sera servie en premier.
Ce qui est normal.
C'est assez caractéristique d'un mal français qui n'a pas commencé avec Macron, qui n'a même pas 20 ou 30 ans, parce que c'est quelque chose de séculaire. Ce problème de relation entre la recherche fondamentale et l'industrie, en France, c'est un mal français. Oui. Et donc là, ça explose avec cette histoire. Et on voit, quand on voit que c'est un Français qui a créé Moderna et qu'il a été obligé de s'expatrier aux États-Unis, ben ça pose des questions sur notre capacité de réaction face à la modernité, tout simplement.
Je pense qu'il y aura un avant et un après, d'ailleurs. Une fois qu'on sera sorti de tout ça, on se posera la question de l'accompagnement de la recherche française. Il nous reste quelques secondes. Jean Castex va prendre la parole demain à 18h. Est-ce qu'on peut en attendre des annonces?
Il ne va pas parler pour rien, quand même.
Oui, mais...
Sauf que moi, j'ai l'impression que c'est quand même aujourd'hui Emmanuel Macron qui a pris la main et que les annonces de Jean Castex seront sans doute pas les annonces fondamentales qu'on attend.
Parce peut-être que quand des petits ajustements, mais pas, ce sera pas le tour de vis fondamental. Vous pensez, Pascal Pogam, après cette grande enquête que vous avez réalisée sur les vaccins, et puis vous avez quand même le nez dans les chiffres, vous aussi, vous pensez qu'on pourra éviter un reconfinement ?
Je me garderais bien de faire une prévision à la matière. En revanche, je crois pouvoir prédire tout de même que Jean Castex ne parlera pas de confinement demain, ou alors on ne comprend plus rien. On ne comprendrait pas les annonces faites, les déclarations faites par Emmanuel Macron hier, si Jean Castex demain nous annonçait un reconfinement.
Comment vous la jugez d'ailleurs, la com du gouvernement, là, sur les derniers jours ?
Surprenante, pour le moins. Oui. La séquence depuis vendredi, est assez surprenante, mais en même temps, honnêtement, tout le monde navigue à vue.
Tout le monde navigue à vue. Là, on s'est dit vendredi, quand le Premier ministre a parlé, on dit c'est parce que le président ne veut rien dire, et puis il s'est ravisé pendant le week-end en disant
c'est au jour le jour. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que le politique a repris barre sur les experts et que Emmanuel Macron est contredit quand même de manière assez claire ce que disait M. Delfraissy. C'est intéressant à analyser. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Mais en tout cas, ça, c'est une certitude. Le politique semble avoir repris barre sur la façon de gérer cette crise.
Et puis, on en parle régulièrement dans cette émission, mais il y a la question de l'acceptabilité. Il y a un sondage qui vient de sortir ce soir qui montre que 50% des Français sont favorables à un reconfinement. Mais ça veut dire, à l'inverse, qu'il y a quand même un Français sur deux qui est opposé. Vous vous souvenez qu'on était dans des proportions absolument différentes il y a encore quelques semaines. Ça, c'est un élément aussi qui est pris en compte, évidemment, par l'exécutif. On le répète régulièrement, mais
vous voyez,
mais 50%,
et ben ça fait pour Macron du en même temps.
Oui, ouais. Voilà. Mais à un moment, c'est qui tranche,
et ben voilà,
qui décide.
Et ben voilà.
Ouais. Vous pensez qu'on va réussir à passer les vacances comme ça, là,
moi,
dans le trou
de
souris ?
Je pense rien du tout. Moi, je pense, honnêtement, et puis si j'avais un avis, je ne vous le dirais pas, mais je n'en ai pas. Vous voyez, j'espère, je ne fais qu'espérer et mettre des cierges à...
On dit que les vacances pourraient être un petit peu étendues. Bon, ça fait partie des hypothèses, mais personne ne le sait, je pense.
Voilà le genre d'information que nous donnera peut-être Jean Castex demain. Des précisions sur les vacances scolaires et sur les déplacements d'une région à l'autre.
Il nous reste 30 secondes, faites-nous rêver, la une de l'Express, qui est donc sur...
Sur Sanofi, un fiasco français, qui revient non pas juste sur l'épisode du vaccin, mais sur... ça fait rêver, hein, Catherine. Qui revient sur 10 ans d'erreurs stratégiques.
Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette enquête ?
C'est justement ce retour en arrière qui nous montre que cet échec sur les vaccins n'est pas le fruit du hasard et juste une question de malchance, mais le résultat qui était écrit finalement et qui était inscrit dans l'histoire du groupe, c'est son incapacité
à
nouer
des mauvais choix industriels,
incapacité à nouer des partenariats avec des startups, et notamment Moderna, puisque Sanofi discutait d'un rapprochement avec Moderna il y a encore deux ans, trois ans.
Ah oui.
Donc beaucoup de ratés, beaucoup de problèmes de gouvernance. Et tout ça aboutit à une entreprise qui n'a pas su être prête au bon moment et qui a raté son rendez-vous avec l'histoire.
Mais les vaccins seront prêts, nous dit Sanofi, à l'automne.
Et ils nous serviront à l'automne.
Et il y aura un marché encore important, visiblement. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mercredi.
Europe 1, Julien Bugier.
18h56, vous restez avec nous dans quelques secondes le journal et puis le grand débat du Club des Idées. On parlera du tourisme spatial qui démarre, ça y est.